l'Église chrétienne, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas entrent en scène pour l'évangélisation des peuples non-juifs, ils reçoivent une recommandation très importante de la part des plus hauts responsables de l'Église de l'époque. Et cette recommandation, nous la trouvons dans la lettre que Paul a écrite aux Galates, au chapitre 2, le verset 10, qui dit ceci. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Plusieurs passages du Nouveau Testament montrent en effet avec quel soin l'apôtre Paul et Barnabas remplissaient cette recommandation de l'Église. Cette recommandation de l'Église qui était déjà mise en pratique au sein de l'Église chrétienne, au sein de l'Église naissante. La prise en compte du sort des plus pauvres. Et pas seulement des plus pauvres, car vu les nombreux textes qui en parlent, ils s'occupaient également des malades, des veuves, des orphelins et des étrangers. Bref, les plus démunis de la société, les plus faibles de la société, depuis le début de l'ère chrétienne, étaient une préoccupation majeure, première, constante des chrétiens de ce siècle. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres. Voilà la recommandation qui nous vient de nos premiers frères en Christ. Et c'est sur cette recommandation que j'aimerais attirer notre attention ce matin. Pour mieux la comprendre, pour essayer de saisir ce qu'elle veut dire exactement, je vous propose trois questions. Interrogeons-nous d'abord sur le pourquoi de cette recommandation. Quelle est la raison d'une telle recommandation, les pauvres. Les pauvres, n'est-ce pas leur faute s'ils sont dans la situation dans laquelle ils se trouvent? Ils n'ont qu'à bosser, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à bosser s'ils veulent sortir de leur misère. S'ils n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger, de quoi se soigner, de quoi se cultiver, c'est parce qu'ils n'ont pas su gouverner leur vie. N'est-ce pas vrai que c'est ce qu'on entend souvent dans la bouche de certains? N'est-ce pas vrai que la tendance souvent c'est d'accuser les pauvres, ceux qui n'ont aucun moyen de se défendre, alors que les vraies raisons de la pauvreté se trouvent ailleurs? Certes, la Bible condamne la paresse et la mauvaise gestion de sa vie. Et elle invite le paresseux à suivre l'exemple de la fourmi qui travaille en été pour avoir de quoi manger en hiver, c'est-à-dire quand les temps sont difficiles. Mais la Bible considère aussi que la pauvreté est surtout un mal social dont le pauvre n'est pas toujours responsable. Les vraies raisons se trouvent souvent dans les injustices de toutes sortes qui existent dans nos sociétés un peu partout dans le monde. Quelles sont les véritables causes de la pauvreté? Sans parler des causes naturelles, les catastrophes, n'est-ce pas, les divers cataclysmes, là aussi souvent, qui se produisent à cause de la négligence et de la mauvaise gestion de la nature, les guerres, etc. Selon la Bible, la pauvreté est liée aux injustices de la société, à l'oppression, à la corruption, à l'égoïsme, à la cupidité, à l'orgueil de l'homme et à la puissance dominatrice de certains qui ne se gênent pas pour écraser les autres. Les prophètes bibliques, déjà à leur époque, dénonçaient ces choses avec force et vigueur. Leur combat contre le vol, l'oppression, la fraude et l'injustice ne passe pas inaperçu. Il suffit de voir ce qu'Amos dit dans sa prophétie contre ceux qui vendent le pauvre, je cite, pour une paire de souliers, qui écrasent les indigents, qui détournent les ressources des humbles et qui entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Il suffit de voir ce que Jérémie dit contre le roi Joachim, qui a recours au travail forcé pour construire son luxueux palais. Il suffit de voir comment Élie reprend le roi Achab, parce que celui-ci fait assassiner Naboth pour lui voler sa vigne. Il suffit de voir ce que Daniel ose dire au roi Nebuchadnezzar. Ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les pauvres. Il suffit de voir les autres prophètes, le prophète Ésaïe et d'autres, n'est-ce pas, ce qu'ils disent sur les causes de la pauvreté. Ces prophètes prenaient position en faveur des victimes de la cupidité et de l'injustice économique, en la liant souvent à l'apostasie religieuse, n'est-ce pas? Il suffit de voir comment Jacques, dans le Nouveau Testament, condamne les riches, non pas d'être riches, parce que la richesse en elle-même n'est pas un péché, le péché ne se trouve pas dans les choses, le péché se trouve en nous, mais d'avoir frustré les ouvriers de leur salaire et opprimé les innocents. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous entassez des richesses. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents et ils ne vous résistent pas. Je crois que toutes ces paroles de la Bible nous montrent quelles sont les véritables causes de la pauvreté dans le monde. D'ailleurs, ceux qui se penchent sur ces questions liées à la pauvreté, les spécialistes de ces questions, savent bien que celle-ci est la conséquence surtout de la répartition inégale des richesses, des salaires, des biens, etc., de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Du vol, de l'exploitation, de l'oppression, de la corruption et de toutes ces choses dénoncées par les prophètes de la Bible. On sait que les pays riches vont souvent exploiter les richesses des pays pauvres. En voie de développement, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et malgré les richesses des sous-sols de ces pays, les autochtones vivent dans la misère, dans la pauvreté la plus complète et n'ont pas accès aux choses élémentaires et vitales de la vie. Il y a des accords commerciaux absolument iniques qui empêchent le producteur de matières premières de jouir du produit de leur travail. J'ai vécu plus de 2 dizaines d'années en Afrique, j'ai eu bien le temps de voir ce qui se passe, n'est-ce pas, avec ceux qui produisent par exemple le coton pour qu'on puisse bien s'habiller ici en Europe, et qui reçoivent un salaire de misère et qui abîment leur sol qui devait servir à produire de la nourriture. Comme disait Schopenhauer, l'or est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. L'apôtre Paul disait que l'amour de l'argent est la cause de toutes sortes de maux. Il engendre bien de souffrances dans ce monde. Il le lie même à la convoitise, à l'idolâtrie. Il ne faut donc pas blâmer les pauvres. Il faut lui venir en aide. Il faut venir en aide aux pauvres, les secourir, les protéger. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres. Mais d'où vient cette recommandation? D'où vient-elle? Quelle est son origine? À l'époque de l'apôtre Paul, elle est venue des plus hautes autorités de l'Église. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs au verset 9, il s'agit des apôtres Pierre, Jacques et Jean, qu'il considère lui-même comme les colonnes de l'Église. C'est vrai que Pierre, Jacques et Jean ont été les plus proches collaborateurs de Jésus. Ils étaient les plus éminents représentants de l'Église à cette époque. Ils faisaient partie du cercle intime de Jésus. Et ce sont donc eux qui donnent cette recommandation à l'apôtre Paul et à Barnabas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux-mêmes l'ont reçu de leur maître, le Seigneur Jésus, qui, comme Pierre le dit dans un autre passage, allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ou comme le dit Matthieu dans son évangile, sa renommée était telle, même dans toute la Syrie, qu'on lui amenait tous ceux qui souffraient. Ces trois apôtres donnent cette recommandation car ils ont vu non seulement ce que leur maître a fait pour les pauvres, comment ils se comportaient au milieu d'eux, mais ils ont entendu aussi les paroles, l'enseignement de Jésus sur les pauvres et les démunis, les faibles de la société. Et notamment ce passage que notre frère André a lu tout à l'heure, ces paroles qui seront prononcées à la fin des temps, n'est-ce pas? Après notre vie ici-bas, où nous entendrons « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. etc. » On a entendu la lecture, ce passage tout à l'heure. « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Parole de Jésus. C'est clair que Jésus était l'ami des pauvres. Il était l'ami des pauvres. Il les a nourris. Il a enseigné ses disciples à être généreux envers eux, à inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles à leur fête. Et il les assurait qu'en le faisant, en donnant à manger et à boire aux nécessiteux, en donnant des vêtements à ceux qui n'en avaient pas, en accueillant l'étranger et en allant visiter les malades et les prisonniers, c'est à lui-même qu'il le faisait. Les apôtres donnaient cette recommandation car ils connaissaient aussi le message de Jean-Baptiste, et notamment ces fameuses paroles « Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Ce message de l'Évangile a inspiré beaucoup de chrétiens à travers les temps. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'organisation de cette journée du défi Miché sur la pauvreté, n'est-ce pas, tombe pratiquement au même moment, c'était le 4 octobre, où on célèbre le centenaire de la mort d'Henri Dunant. Vous savez, ce chrétien évangélique fondateur de la Croix-Rouge. Henri Dunant, la Croix-Rouge, bien sûr, on n'a pas besoin d'en parler, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce que c'est et le bien que cette organisation fait un peu partout dans le monde. Mais on peut rappeler aussi son bras droit, Gustave Moynier, chrétien évangélique convaincu, lui aussi, n'est-ce pas, qui a été l'organisateur, le penseur, le juriste qui a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration des statuts et des objectifs de la Croix-Rouge. Ce message de l'Évangile a inspiré William Bott, fondateur de l'armée du salut. On n'a pas non plus besoin de démontrer les bienfaits de cette organisation un peu partout, et même ici en France, n'est-ce pas, parmi les pauvres. Ce message a inspiré l'abbé Pierre, chrétien catholique, qui a consacré sa vie à être le porte-parole des mal logés en France et qui a fondé les Compagnons d'Emmaüs. Ce message a inspiré Mère Teresa, qui a fondé les Missionnaires de la Charité, Sœur Emmanuelle, qui est allée aider les chiffonniers au Caire, n'est-ce pas, et tant d'autres chrétiens qui nous montrent le chemin à suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres, ils ont hérité cet enseignement de l'Ancien Testament, des Écritures de l'Ancien Testament. Cet enseignement si riche qu'on trouve dans l'Ancien Testament sur le souci des pauvres, le souci des plus faibles de la société. Car à la base, cette recommandation vient de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu donna à Israël un pays où coule le lait et le miel, il leur a donné cet ordre qui se trouve dans Deutéronome chapitre 15, verset 4. « Il n'y aura pas de pauvres chez toi. » il n'y aura pas de pauvres chez toi. » Et il ordonna en même temps au peuple de ne pas endurcir son cœur, ni de fermer sa main devant leurs frères pauvres. Chacun devait être généreux et le montrer d'une manière pratique, en partageant leurs récoltes avec ceux qui avaient difficulté et qui manquaient du nécessaire. Ça vaut la peine peut-être de lire Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 7, juste quelques versets. « Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur et tu ne lui refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de te dire « C'est bientôt la septième année, l'année de la remise des dettes » et pour cette raison de regarder ton compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner. Car alors il se plaindra de toi à l'Éternel et tu porterais la responsabilité d'une faute. Donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur. Et pour cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. En fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. Ça rappelle les paroles de Jésus dans l'Évangile, n'est-ce pas? Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et après, le texte continue. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Et ensuite, plusieurs textes de l'Ancien Testament affirment, n'est-ce pas, que les agriculteurs devaient laisser un coin de leur champ moissonner afin que les pauvres puissent se nourrir de ce qu'ils allaient, de ce qu'ils pouvaient glaner. Ils devaient laisser des grappes dans les vignes et ne devaient pas ramasser les graines qui tombaient par terre afin que les pauvres trouvent de quoi manger et qu'ils participent également à la fête de la moisson. D'ailleurs, il y a une histoire très belle dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, l'histoire de Ruth. Cette histoire qui se passe autour du glanage, n'est-ce pas, dans le champ de Boaz. Ça vaut la peine de lire cette histoire à la maison. Tous les 3 ans, la dîme, c'est-à-dire un dixième des produits agricoles, était réservée non seulement aux besoins des Lévites qui s'occupaient du culte, mais aussi aux besoins des pauvres, des immigrants, des orphelins et des veuves. Dans Deutéronome 14, verset 28, il nous est dit « Tous les 3 ans, vous prélèverez toute la dîme des récoltes cette année-là et vous la déposerez à l'intérieur de la ville. Alors les Lévites qui n'ont pas de part de patrimoine foncier comme vous viendront ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. » On pourrait continuer à voir tous ces textes, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament qui nous disent, par exemple, que les employeurs devaient payer intégralement et sans délai, rapidement, le juste salaire à leurs ouvriers. Qu'il était interdit d'imposer des conditions de travail pénibles et dégradantes. Bref, il y avait tout un tas de lois qui protégeaient les ouvriers de l'injustice, de l'exploitation. Toute une série de garde-fous pour éviter l'enrichissement abusif des uns aux dépens des autres. En plus, on a vu tout à l'heure dans la lecture de Deutéronome, tous les 7 ans, on mettait la terre en jachère et l'on ne récoltait pas les produits afin que les pauvres en profitent et pour que la terre se repose. Tous les 7 ans, il devait faire relâche en ce qui concerne la dette. Faire relâche en ce qui concerne la dette. Lors de l'année du jubilé, tous les 50 ans, n'est-ce pas? Alors là, c'était la totale. Les compteurs étaient remis à zéro. Une nouvelle chance était donnée à tout le monde. Les esclaves étaient affranchis, les terres confisquées étaient rendues à leurs vrais propriétaires. Le Lévitique précise que le but de tout cela était d'empêcher la prospérité peu scrupuleuse et excessive de certains au détriment des autres. D'arrêter la spirale de l'endettement, de la pauvreté, de la dépossession des terres, de la servitude et de donner une nouvelle chance à chacun. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres. Comment accueillons-nous aujourd'hui cette recommandation? L'apôtre Paul ajoute ce que j'ai eu bien soin de faire. Et on sait bien, on ne va pas le voir aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on sait bien que l'apôtre Paul et Barnabas ont effectivement mis en pratique cette recommandation. Mais nous aujourd'hui, comment allons-nous accueillir cette recommandation? D'abord, nous devons être conscients que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu et que nous sommes, dit la Bible, que le gérant, n'est-ce pas, les dispensateurs de ce que Dieu met à notre disposition. C'est ce que ressort des passages de l'Ancien Testament, notamment dans celui de Deutéronome qui dit, chapitre 8, verset 17, qui dit « Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. » Il faut tenir compte des recommandations de la parole de Dieu et notamment celle du prophète Michée qu'on a déjà entendu. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Avoir effectivement de la compassion pour les plus faibles de la société. Car finalement, on voit que Dieu a un souci particulier pour les pauvres. La Bible nous dit aussi d'être riche en bonnes œuvres. Riche en bonnes œuvres. L'apôtre Paul associait souvent la repentance et la conversion à la pratique de bonnes œuvres. Cultiver d'un côté la générosité et je dirais de l'autre côté la simplicité. Mener une vie sans gaspillage, sans excès. Savoir faire la différence entre le nécessaire et le superflu. Ne pas accepter sans rien faire la pauvreté de ce milliard de personnes qui crèvent de faim dans le monde. Ne pas baisser les bras face à ce scandale terrible qu'est la misère, la pauvreté. L'action en faveur des pauvres, quelqu'un l'a dit, est un devoir d'humanité. Un devoir d'humanité. Et ce devoir d'humanité doit être renforcé déjà au milieu de nous, au sein de nos églises, de l'église chrétienne, parce que l'église chrétienne est quand même une puissance dans le monde. Elle est une force dans le monde. Martin Luther King disait que les chrétiens ne doivent pas se contenter d'être des thermomètres, n'est-ce pas? Des thermomètres qui enregistrent la température ambiante, mais des thermostats. Des thermostats qui modifient la température. Et Jésus disait que notre rôle est d'être le sel de la terre, de donner de la saveur, une saveur nouvelle à la société. Nous sommes encouragés donc à agir en tant que chrétiens pour que les choses changent et que ceux qui dirigent ce monde agissent avec justice et dans le respect de la dignité humaine. L'Église doit être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Les chrétiens sont appelés à être un peuple de témoins, de sentinelles, à l'instar des prophètes de l'Ancienne Alliance. Les chrétiens sont appelés à être la conscience de la société dans laquelle ils vivent. Nous sommes appelés à rappeler les exigences de Dieu pour la vue commune des humains, en tout cas à rappeler ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes encouragés à élever nos mains avec nos 5 doigts, n'est-ce pas? 5 années encore, jusqu'à l'an 2015, pour que les dirigeants de nos nations riches accomplissent la promesse faite en 2000, de réduire de moitié la pauvreté dans le monde. Élever nos mains et nos voix pour dire non à la pauvreté et à la misère, oui au partage et à la générosité. L'appel qui nous vient de ce livre merveilleux par lequel Dieu a voulu se révéler à nous, aux hommes, c'est de nous faire connaître sa volonté sur les pauvres. Souvenez-vous des pauvres. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire, nous dit l'apôtre Paul.